Radio.
Just what is it that you want to do?
We want to be free. Do what we want to do.
Sur Radio Panique.
We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time.
Bip Radio.
C'est nouveau, enfin, oui, voilà. Bonjour Clip Radio, on est là ensemble pour une heure. Donc Clip Radio, c'est un projet participatif en collaboration avec Dune. Voilà. Alors, on va faire un tour de table. J'ai couru, mais grave quoi. Ouais, voilà. Enfin, ouais, on voudrait aussi saluer Mario qui est en Grèce. Je pense que c'est une des premières émission que je fais sans lui.
Ouais.
Mais bon, il y a Raph hein, qui est là, donc voilà.
Ouais, je le remplace. Au lieu d'être derrière dans la technique, cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions aussi.
Ouais, il pose les questions aux abonnés. Alors, et comme donc, comme sujet du jour aujourd'hui, ah, on a Tommy aussi qui est au son. Donc voilà. Et donc, on va présenter ces demoiselles. Vous vous présentez, les deux. Mesdemoiselles.
Bah moi, je m'appelle Roxane, je suis infirmière à la MediHalt, du coup, qui est le centre médicalisé du SAMU social à Bruxelles, depuis février 2018, donc 3 ans à peu près.
Okay. Et
je travaille le soir. Voilà.
Et alors, nous avons. Oui, d'ailleurs, elle s'est déplacée spécialement pour cette émission, hein, on la remercie. Et alors, on a aussi.
Isaline, moi je suis la psychologue à mi-temps depuis 3 ans à la MediHalt et j'ai un deuxième mi-temps à l'ASBL Diogène comme travailleuse de rue.
Ah oui, là où Mario travaille aussi.
Là où Mario.
Exactement, oui. Mais ils ont peut-être pas les mêmes horaires, c'est peut-être pas la même branche, je pense.
Non, Mario il travaille pas en rue avec moi, mais c'est quand même un collègue et je le salue.
Ok.
Et alors donc voilà, MediHalt, j'ai entendu SAMU, etc. Et c'est quoi en fait MediHalt? Genre, c'est pas un arrêt de bus quand même?
Non. En fait, donc le SAMU social a plusieurs centres avec plusieurs missions différentes. Et donc MediHalt, c'est vraiment, comme j'ai dit, le centre médical, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes sans abri. Donc ça, c'est commun à tout le SAMU social. Mais nous, on accueille des personnes sans abri qui ont besoin de soins.
Ils ont tous besoin de soins.
Oui, ça c'est sûr, mais qui ont besoin de soins plutôt ce qu'on appelle aigus, c'est-à-dire des soins qui ont une limite dans le temps, donc qui vont se finir à un moment, par exemple un pansement ou des injections de certains médicaments ou un traitement antibiotique, ou en fait il y a différentes choses comme ça. Après, je dis délimité dans le temps, mais en fait il y a 2 types de places, c'est-à-dire qu'il y a les places qu'on appelle court séjour, donc qui sont des places LHSS, et les places qu'on appelle long séjour, qui sont les places LAM. Et donc LHSS, court séjour, effectivement c'est limité dans le temps, mais LAM c'est pour des personnes qui ont besoin de soins sur un plus long terme, et dans ces cas-là il n'y a pas de limite de temps définie, donc ils peuvent rester de une semaine à des années, donc voilà.
Ah ouais.
Donc ça fait office de logement aussi, quoi.
Oui, voilà. Donc les patients dorment sur place, mangent sur place, font leur machine de linge, font leur vie quotidienne chez nous, en fait.
Ok.
Donc voilà.
À la rigueur, c'est presque mieux être à la rue et malade.
Bah en fait non, parce que il y a aussi
on
d'autres.
On peut parler. Hein.
Oui, non, mais enfin je vois ce que vous voulez dire, mais il y a d'autres centres qui offrent d'autres types d'hébergement, même quand on n'est pas malade. Les centres d'urgence qui accueillent la nuit, les centres pour personnes vulnérables, il y a un centre famille, il y a un centre pour femmes aussi. Donc voilà, il y a plusieurs types de missions, entre guillemets, qui sont proposées pour les SDF de Bruxelles.
Et alors j'ai entendu, SAMU, quel est votre rapport par rapport au SAMU de manière générale? Enfin, le SAMU qui accueille les sans-abri
Bah, on en fait partie, c'est juste que nous, c'est un peu particulier parce qu'en fait, les gens, pour venir chez nous, ils passent pas forcément par le téléphone. Donc, quand on dit le téléphone, c'est un numéro gratuit qui est le 0899-340, que les personnes peuvent appeler s'ils ont besoin d'un hébergement pour dormir, etc. Et nous, en fait, ça va plutôt être par les hôpitaux qui vont nous faire des deux, ou par les autres associations du réseau de Bruxelles, ou par les autres centres du SAMU qui vont nous faire une demande à l'avance, Donc aujourd'hui, c'est organisé de façon à ce qu'on a un collègue qui est qu'on appelle le point focal médical, qui s'appelle Laurent Olivier, qu'on salue s'il nous écoute, qui s'occupe des demandes d'hébergement de la médiale. Donc c'est des demandes qui sont faites à l'avance et pas dans un système d'urgence comme les autres centres du SAMU. Donc à l'avance, il reçoit les demandes des différentes personnes du réseau. Et il évalue si ils ou elles peuvent rentrer à la médialte et si ils ou elles ont besoin de rentrer à la médialte et sous quelles conditions, s'il y a assez de place, etc. Donc en fait, c'est des entrées qui sont prévues contrairement aux autres centres où ça se passe plus dans l'urgence et par le biais du téléphone, quoi.
Okay. C'est que pour des gens dans des conditions spéciales, donc ils doivent avoir une mutuelle ou est-ce qu'ils doivent être, il doit y avoir une référence pour venir chez vous ou, ils peuvent venir toquer à la porte et être acceptés?
Non, c'est un hébergement qui est gratuit et sans condition inconditionnelle, même s'il y a la condition d'avoir besoin de soins infirmiers. Uh-huh. Mais les personnes ne peuvent pas elles-mêmes venir demander l'hébergement. Ça passe par, en général, un hôpital, un médecin, même parfois une équipe sociale, si c'est par exemple une équipe de rue qui suit la personne. Mais ça doit faire passer par une demande d'admission. Et donc, il faut remplir une fiche psychomédico-sociale expliquant les raisons de la demande d'hébergement.
Donc, je suppose qu'il y a un temps d'attente pour ça.
C'est très variable, en fait. Ouais. Ça dépend un petit peu du nombre de places qu'on a. Ça peut dépendre aussi de l'urgence de la demande. Par exemple, quelqu'un qui est en rue et on aurait une demande d'une équipe de rue qui dit, ben là, la personne, si elle n'a pas un hébergement assez rapidement, ben, ça va se dégrader très, très fort et on est vraiment très inquiet pour cette personne. Et qu'on a une place, ça va vraiment dépendre si on a une place. Et ben, ça peut être le lendemain, on a une place. Maintenant, par exemple, on a un gros souci structurel, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ascenseur chez nous. Et donc les personnes à mobilité réduite ne peuvent être qu'au rez-de-chaussée. Et donc on a 6 places rez-de-chaussée qui sont en général occupées. Et donc là, l'attente peut être de 1 mois, 2 mois avant de pouvoir avoir une place. Ouais, ça peut être très long.
Et donc je suppose que ça se développe sur plusieurs étages. Vous avez une capacité de quoi? 100 personnes? 50 personnes?
42 lits.
42 lits.
Ouais.
Ok. Et ça se trouve dans quelle zone de Bruxelles?
On est situé juste en face de Bruckmann Horta.
Ok.
À La Queue, du coup.
Ouais.
À la station de métro ou bas Bruckmann, pour ceux qui s'y situent.
Ok.
Donc, assez excentré. Ouais. Ça peut aussi être un avantage comme un inconvénient.
Ouais.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse peut-être déjà une première pause.
Avec plaisir.
Comme ça. On se met, enfin voilà, une première pause. Et donc, c'est un morceau choisi par mademoiselle.
Je ne sais pas lequel il va mettre, ça dépend.
Avec si Tommy.
On va savoir quand Tommy mettra le morceau, s'il trouve ce qu'on recherche.
J'en profite pour dire que d'une, si vous connaissez le bon plan, cherche des personnes qui parlent néerlandais, c'est bénévole. Si vous voulez lui donner un coup de main et faire une bonne action, enfin voilà, renseignez-vous d'une. C'est pour la traduction de certains trucs, quoi, à Dune.
Ah, pour traduire des pages du bon plan, ouais.
Oui, voilà, donc je pense à eux comme ça, donc voilà.
Why not? Est-ce qu'on a de la musique? On n'a pas encore de musique. C'est pas grave. Et donc, bah, on va continuer un peu à parler à Médial.
Et en fait, tu disais que tu travaillais à Diogène et en même temps à Media Alt. Quoi, les deux, ça se combine bien? Enfin... ou c'est deux travails totalement différents?
C'est deux jobs très différents, dans le sens où au SAMU social, j'ai une fonction de psychologue, et en rue, j'ai une fonction de travailleuse sociale. Et donc, c'est vraiment pas les mêmes missions, quelque part, maintenant.
Mais une psychologue, c'est une travailleuse sociale. Et pas le contraire, peut-être.
Oui, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais la psychologue a vraiment une mission attachée à tout ce qui est santé mentale. La travailleuse sociale va plutôt travailler autour du projet social de la personne, même si à Diogène, c'est beaucoup plus large que ça, ce qui permet effectivement de travailler avec des personnes de tous les horizons, parce que le mot d'ordre est de recréer du lien avec la personne, et ça c'est une mission que le psychologue a aussi, donc je m'y retrouve assez bien.
Et comment ça se passe je suppose qu'il y a des fois des conflits à l'intérieur, dans le bâtiment.
Ah oui, oui.
Donc, ouais, et quoi, ça gère comment en fait
c'est tout un là. Service mixte ou mélangé, ou non mixte ou...
Si c'est mixte.
Un étage pour... différentes choses ou...
Alors, c'est pas par étage, mais évidemment, c'est par chambre. Donc, les femmes vont pas partager de chambre avec les hommes et vice-versa.
Ouais.
Mais par contre, c'est mixte dans le sens où il y a des hommes et des femmes. La seule condition aussi qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est qu'il n'y a pas de moins de 18 ans, donc il n'y a pas de mineurs.
Mm-hmm.
Mais sinon, c'est majeur, hommes, femmes.
Même jeunes enfants, moins de 5 ans, par exemple.
Non, ça, il n'y a pas.
Okay. Parce que c'est 18 ans minimum. Vous avez des mères de famille qui sont aussi vos patients.
On en a, mais ce qu'on a surtout eu parfois, c'est des femmes enceintes. Après, à partir du moment où elles accouchent, si elles n'ont pas vraiment de projet, le but c'est plus qu'elles arrivent dans un centre famille dont j'ai parlé tout à l'heure.
Uh-huh.
Donc les centres famille, c'est plus adapté justement à accueillir des mères et leurs enfants et toute la famille ensemble, puisque nous on n'accueille pas d'enfants. Donc voilà.
Ouais. Donc c'est plutôt un endroit temporaire pour se remédier quoi, chez vous.
C'est ça, en fait, c'est un endroit, comme son nom l'indique, pour faire une halte, dans le sens où, pour se reposer, pour prendre des forces, entre guillemets, ouais.
En fait, notre grande particularité par rapport aux autres centres, c'est la présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'une équipe infirmière, et c'est l'équipe infirmière qui est centrale dans notre centre. Et donc, le projet médical est vraiment au centre de l'hébergement de la personne par rapport aux autres centres d'hébergement, où c'est plutôt le projet social qui sera au centre.
C'est ça.
Ouais. Ok.
Voilà. On va faire un premier break.
Ouais.
Donc voilà, donc le morceau, tenu.
On va découvrir.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die, but
Romain.
Ouais.
Mais...
Allô.
Ouais.
Bonjour Mario.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah, chaudement, hein.
Ouais, au soleil, tu es au bord de la plage, tu es au bord de l'eau, où es-tu?
Ouais, mais voilà, je pense à vous, quoi. J'allais pas. En plus, ce serait la première émission que j'ai rate, donc je voulais pas la rater, quoi.
Ouais. On rappelle que tu as eu un petit téléphone de Grèce, hein, donc ce qui est sympa.
Ouais. Ouais, mais j'ai quand même une question pour les filles. Ouais. Salut les filles, d'ailleurs.
Salut.
Donc, vous dites que c'est mixte. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des couples qui se forment, il y a des interdits là-dessus ou... Ouais.
À l'intérieur du centre, il y a des interdits. Surtout
à l'intérieur du centre, vu que c'est mixte, quand on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Ouais. Alors c'est dans le règlement, pas de rapport sexuel à l'intérieur du centre. Après, à l'extérieur, les gens font évidemment ce qu'ils veulent. Les femmes sont toujours entre elles dans les chambres, soit en chambre seule, soit juste entre femmes. Donc on va jamais mettre un couple ensemble dans la même chambre, quoi.
C'est ça.
Ok, ben, c'est cool. Ok, je crois que j'ai même déjà posé la question quand vous êtes venu le samedi.
Ben, vas-y.
Non, je crois que j'avais déjà posé cette question ce jour-là.
Ah, ouais, c'est bien possible, c'est bien possible.
Moi, j'ai une question pour toi, comment ça se passe? Il y a du soleil ou quoi?
Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool.
Tu reviens quand?
Tous les jours 30. Je reviens le 24 et je me remets au boulot le 27, quoi.
Oui. Ok.
Et là, il y a du soleil? Donc,
Non, là, il n'y a pas de soleil, il fait noir. La nuit, quoi. Non, mais même il y a une heure de décalage. Hein,
Et il fait déjà.
Il est 9h ici.
Ah bon, tu
non, mais les gars, je suis content.
Ouais,
L'émission est trop bien.
Merci.
Et moi, je vous dis à bientôt.
Ouais. Dites bonjour aussi à ta copine, hein, qu'on n'oublie pas. Hein.
Pas de problème.
Ouais. Ouais, bonjour, Hélène. Merci d'avoir intervenu et d'appeler, Mario.
Enfin, merci.
Voilà. Les gars.
Merci.
Donc on a eu Mario à la radio et avant ça on avait les Strombellas. C'est ça, non? Ouais.
Et c'est un titre qui nous vient de.
De moi.
De
Isaline.
Ok.
Donc on a Isaline et Roxane de Medialt. Ouais. Projet. En fait, de Samu ici.
Donc Medialt. Medialt c'est un service public, vous dépendez de l'État.
De la région.
De la région. Mmh. Parce que je me demandais s'il y avait peut-être des conditions à ça, ou s'il y avait des. Je ne sais pas, vous avez des contraintes par rapport à ça, ou pas spécialement?
Nous, c'est particulier, on est financé par l'INAMI, principalement, comparé au reste du SAMU social qui est vraiment subsidié par la région. Mais donc, effectivement, on a des comptes à rendre en termes de statistiques, notamment. Par exemple, une des particularités, c'est qu'on reçoit de l'argent en fonction des lits qui sont occupés. Et donc, avoir un maximum de... C'est ce qui est assez normal, hein, étant donné qu'il y a plein de gens qui sont en rue, avoir des centres qui sont bien remplis, on va dire, ne pas refuser des gens quand on a une place de libre. Mais ça, c'est une des contraintes qu'on a.
Donc, bon, maintenant, je suppose qu'il n'y a pas souvent des places libres, hein, chez vous.
Ça arrive, hein.
Ah oui, quand même.
Ouais. Oui, ça arrive. Mmh. Après, oui, c'est plus ou moins rare dans le sens où on essaye de... Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on n'a pas de mal à les remplir rapidement, entre guillemets. Mais ça arrive qu'on ait des places libres, oui.
Ouais,
ça arrive que le centre soit pas plein. Et surtout ces derniers temps, en fait, la particularité qu'il y a eu, c'est qu'avec le Covid, il y a des fois où on s'est retrouvés cluster, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des cas Covid qui ont été transférés assez vite dans un centre spécialisé, mais... qui était quand même là de base dans notre centre. Et donc à partir de là, on a l'obligation de geler les places, c'est-à-dire de laisser personne sortir ou rentrer dans le sens hébergement. C'est pas qu'on les enferme dedans, mais ils sortent pas et on n'a pas de nouveaux patients pendant un certain temps. Donc ça a fait qu'à un moment, on était à 28 sur 42, quoi. Mais c'était dans des conditions particulières, effectivement.
Par contre, il n'y a pas de visite alors non plus.
Non, il n'y a pas de visite. En fait, c'est un centre anonyme, comme la plupart des centres du SAMU, il me semble.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que les gens qui veulent visiter un proche peuvent venir, mais doivent rester devant la porte et ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du centre. Parce que, justement, il y a des personnes qui ne souhaitent pas qu'on sache qu'ils sont là. Et du coup, par respect pour ça, on a fait la même règle pour tout le monde, quoi.
Et c'est pareil pour nous, si on a au téléphone quelqu'un qui nous dit « voilà, je cherche un tel », on n'a pas le droit de dire « bah oui, bien sûr, cette personne est chez nous ». On peut communiquer à la personne après coup « bah tiens, il y a un de tes proches qui a appelé, est-ce que tu veux recontacter ?» Mais nous, on fait très très attention à cet aspect anonyme pour que les gens aussi puissent se sentir en sécurité chez nous.
Ouais, c'est bien ça. Que j'allais dire.
Et alors, je voudrais dire aussi, comment ça se passe vos collaborations avec les autres hôpitaux, je veux dire. Vous avez des réunions entre collaborateurs ou pas?
Mais ça, ce serait une bonne idée.
Ah, je sais pas, je leur fais des
idées. Non, mais ce serait une bonne idée, effectivement. En fait, pas vraiment. Après, enfin, si, je sais que Laurent a déjà été rencontrer les assistantes sociales des hôpitaux avec qui on collabore beaucoup, donc les deux principaux c'est quand même Brugmann Horta qui est juste en face de chez nous forcément et l'hôpital Saint-Pierre, donc voilà. Mais sinon la collaboration est de toute façon étroite puisqu'on est en communication avec eux souvent puisqu'ils nous demandent souvent d'héberger certains de leurs patients en fin d'hospitalisation, donc voilà.
Ça arrive souvent que les assistants sociaux des hôpitaux méconnaissent nos conditions d'hébergement et un petit peu la structure, quoi. Et donc parfois les assistants sociaux nous disent bah, vous acceptez jamais nos patients, mais en fait ils nous orientent toujours des personnes qui sont en mobilité réduite, qui savent pas monter les escaliers, et donc on n'a pas de place. Et donc je sais que Laurent il fait un très très gros travail à essayer de faire connaître notre centre aux structures hospitalières. Il invite même les travailleurs à venir visiter pour mieux comprendre dans quelles conditions on travaille et pourquoi parfois on est obligé de refuser des personnes. C'est pas qu'on n'a pas envie de travailler avec eux, c'est qu'on structurellement on ne sait pas les accueillir.
On travaille aussi pas mal en collaboration avec les maisons médicales, donc les maisons médicales du centre, par exemple la maison médicale des Marolles, Entraide des Marolles, maison médicale Hansens, etc. Enfin, je vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a beaucoup, mais eux, voilà, il y a eu un désir récent de faire en sorte que cette collaboration soit plus étroite, parce que c'est un peu le problème que Isaline disait. Eux, parfois, c'est la même chose, ils se rendent pas vraiment compte de nos conditions de travail et de ce qu'on peut faire, pas faire, de comment on peut s'occuper d'un patient, et de l'étroitesse de la surveillance qu'on peut assurer. Donc voilà, il y avait notamment la maison médicale Miroir qui était venue visiter le centre pour voir un peu comment ça se passait, et ils s'étaient rendu compte effectivement de certaines réalités. Et je pense que ce serait bien que nous aussi, si un jour on a l'occasion, on puisse aller voir comment ça se passe là-bas pour pouvoir se rendre compte, en fait. Même par rapport aux autres centres du SAMU, nous, on est, de par notre situation géographique, comme on disait tout à l'heure à Laeken, on est assez isolés, entre guillemets, et on n'est pas vraiment en contact avec les autres centres. Et
c'est un peu en périphérie, hein.
C'est ça, ça se situe. Ouais.
Donc voilà, au centre.
Ouais. Voilà. Du coup, on est un peu... On est un peu à l'écart des autres centres. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Enfin, moi, récemment, j'ai fait une immersion dans le centre pour femmes, donc à Molenbeek, et dans le centre Petit Rempart, dans le centre. Et c'était vachement enrichissant. D'ailleurs, je salue tous les collègues de là-bas qui m'ont vachement bien accueilli. Donc, ouais, ça peut ouvrir les yeux sur les conditions. Et comme nous, on leur envoie des patients, eux, ils nous en envoient, bah, je pense que c'est important de savoir un peu comment les choses se passent, parce que c'est vrai qu'on est vite dans sa... Je pense que c'est tout le monde pareil. Enfin, quand on travaille, on est vite dans une routine où, en fait, on va tous les jours au même endroit. Et...
Ça peut aussi permettre d'avoir une autre vision de la méthode de travail.
C'est ça, bien sûr. C'est ça. Et donc, c'est super enrichissant.
Voilà. Mais ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que ça existe, ce service.
La Medihealt ?
Ouais.
Ça a ouvert en 2015, ouais, donc c'est récent.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ok, c'est ça. Parce que j'ai l'impression justement que c'est connu, mais que c'est pas aussi connu que certains centres qui sont là depuis plus longtemps, on va dire. Peut-être une des raisons pourquoi vous n'êtes pas encore. Enfin, c'est pas si grave de pas être au centre de la ville, hein. Comme vous l'avez dit, il y avait un arrêt de métro à côté, donc c'est pas. Ouais, c'est pas le fait d'être en périphérie de Bruxelles, soi-disant, ouais. que c'est pas accessible.
Mm-mm. Bah pour certains patients, c'est même mieux parce que le fait d'être dans le centre, ouais. ça peut les
influencer.
Oui, voilà. Enfin, ils ont des certaines fréquentations ou certaines habitudes qu'ils ouais. ont, qu'ils essayent de perdre.
Ouais.
Et en fait, en étant dans le centre, ils n'y arrivent pas forcément. Alors qu'en étant chez nous, bah c'est mm-hmm. un autre environnement et du coup, ça change un peu la donne, quoi.
Puis pour la petite anecdote, le bâtiment dans lequel on est, on devait y rester normalement très très peu de temps, un an, quelque chose comme ça. Et donc ça fait 6 ans qu'on y est.
Et il y a, je sais pas, une espèce de projet d'évolution où ça va rester comme ça pendant. Vous êtes content de la situation dans laquelle vous êtes ?
Non, déjà comme je disais, on n'a pas d'ascenseur, donc pour un centre médicalisé, c'est quand même le comble.
Ouais.
Il y a un gros.
Vous cherchez un nouveau bâtiment en fait.
Oui, alors on cherche un gros bâtiment. Il y a un projet d'agrandissement du centre, de réintégrer la médiale dans un plus gros projet qui accueille un public vulnérable, pas seulement les patients de la médiale, mais d'autres personnes vulnérables. Notamment des personnes lits psychiatriques, femmes enceintes, ce genre de choses. Mais actuellement, le SAMU social peine à trouver un bâtiment qui puisse accueillir un tel projet, qui soit dans son budget.
Parce qu'ils en ont pas mal, hein, au SAMU, des immeubles sur Bruxelles. Ils pourraient vous en prêter un.
Le SAMU social,
ouais.
Non, et le SAMU n'a pas tellement de...
Ouais,
de
en fait, la plupart des bâtiments appartiennent pas au SAMU.
Ouais.
Ah, ok.
C'est des gouffres financiers.
Et alors, on a parlé des conditions de travail, c'est aussi par rapport au matériel ou bien au personnel. Vous avez, enfin, si on doit voir un peu où sont les avantages, il y a des défauts par rapport. Enfin, je ne sais pas si tu peux en parler. Vous avez le matos qu'il faut, enfin.
Alors, au niveau matos, en soi, oui.
C'est le bureau quand même. Moi, oui, j'ai pas ça. De bureau, par exemple.
Oui, ça, oui. Oui, parce que moi, je pense aux matos techniques, mais c'est vrai que oui, les bureaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout quand tu vois dans les autres centres qui sont beaucoup plus grands, c'est totalement autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Isaline partage son bureau à la fois avec Bram, donc le coordinateur du centre, Hamid, le coordinateur adjoint du centre, et voilà, c'est déjà pas mal. 3 personnes sur un bureau. Donc, ouais, ça c'est le truc primaire. Mais après, nous, d'un point de vue infirmier et soins infirmiers, on a généralement ce qu'il faut pour prodiguer les soins qu'on veut prodiguer. Après, on pourrait peut-être prodiguer plus de soins si on avait plus de matériel. Mais je pense que c'est pas qu'une question matérielle, c'est aussi une question de
l'espace.
Ouais, ou de loi en fait, enfin de ce qu'on a le droit de pratiquer sur un lieu comme ça ou de ce qu'on n'a pas le droit de pratiquer. Je sais qu'il y a des discussions par rapport aux prises de sang, par exemple. Il y avait une idée de pratiquer des prises de sang sur place, mais il y avait eu finalement ça avait pas abouti parce que.
Et donc il y a pas d'opération non plus, je pense.
Non. Il y a pas de.
Il y a quand même des docteurs. Il y a des docteurs qui travaillent chez vous.
Il y a un médecin, oui, qui travaille 3 fois par semaine, Marthe, qu'on salue aussi.
Mais elle a plus un rôle de coordination de soins, un peu coordonner le trajet médical des patients, faire les contacts avec justement faire le lien entre les différents intervenants autour du patient, les différents médecins. Ouais, c'est vraiment celle qui va suivre un petit peu tout le projet médical qui est au centre de l'hébergement chez nous, avec en concertation avec l'équipe infirmière. Mais elle a pas vraiment un rôle de médecin soignant. Justement, son rôle est plutôt d'orienter les personnes vers des médecins traitants de maisons médicales qui pourront continuer à suivre la personne une fois que la personne aura quitté notre hébergement. On est là pour créer un réseau autour de la personne et surtout pas de la rendre dépendante de la médiale, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un endroit où on passe pour être envoyé quelque part après, quoi.
Pour remettre du lien, recréer du lien.
C'est ça. Il y a un but aussi d'autonomisation, évidemment, de par le fait que ce soit un hébergement provisoire, en fait. Donc, effectivement, d'un côté, il faut permettre aux gens de se reposer et donc leur enlever une certaine charge, donc faire des démarches administratives pour eux, etc., ou même apprendre à les faire, ou gérer leurs médicaments, etc., parce qu'il y en a qui ont du mal avec ça, qui n'arrivent pas à les gérer eux-mêmes. Mais le but à long terme... Dans l'idéal, c'est qu'une fois qu'ils sont sur le point de sortir, qu'ils aient acquéri une certaine autonomie, que ce soit d'un point de vue de leur traitement, de leur démarche administrative, sociale, de leur prise en charge personnelle, de... Enfin, je sais que Isaline, tu joues aussi un rôle par rapport à ça, d'un point de vue psy. Que voilà, s'ils ont besoin d'un suivi psy, bah, que le suivi soit mis en place à l'extérieur, à l'avance, etc. Et de pouvoir passer le relais au réseau, quoi. Mmh. En fait.
Est-ce qu'il y a. Comment est-ce que les personnes qui viennent passer un temps chez vous, comment est-ce qu'ils le prennent ? Enfin, comment est-ce qu'ils se sentent une fois qu'ils sortent ? Enfin, est-ce qu'ils ont un aspect positif, ou est-ce que vous les voyez revenir deux semaines plus tard pour telle ou telle raison ?
Alors, ça dépend lesquels, et ça dépend la manière dont ils sortent.
Ouais.
C'est-à-dire que malheureusement, les sorties se font pas toujours dans des conditions sympas. Parfois, c'est...
Copie au cul.
Ben non, entre guillemets. Non, mais en fait, parfois, c'est des décisions qu'on est obligé de prendre précocement parce qu'il y a des règles qui ont été enfreintes, parce qu'il y a des comportements qui ont été trop loin dans le non-respect, que ce soit du personnel ou des autres hébergés. Donc,
c'est quand même devenu rare. Hein.
Oui,
c'est quand même devenu rare.
C'est devenu rare, oui.
Mais c'est pas parce qu'il y a ce petit flou entre court séjour et long séjour, pour quelle raison t'es en court séjour et en long séjour, donc du coup il y a des squatteurs, je suppose.
Alors les patients eux-mêmes savent pas, hein, s'ils sont en court ou en long séjour.
Ah ok.
Ouais. Okay. Normalement.
Oui. C'est parfois très anxiogène, hein, pour les patients qui vont demander mais combien de temps je vais pouvoir rester ici, qu'est-ce que je fais après. Et alors il y a des personnes avec qui on peut travailler un projet de sortie de rue parce qu'elles ont des droits sur le territoire, et malheureusement il y a d'autres personnes, mais on n'y a rien à travailler, et donc elles savent qu'effectivement le jour où elles quittent la médiale, c'est pour retourner en rue. Et donc ça c'est assez violent pour ces personnes-là, c'est violent pour les travailleurs aussi qui doivent... à un moment prendre cette décision qui est terrible à prendre.
Mmh. Mais dans le projet que vous mettez en place, vous ne prévoyez pas
un suivi,
enfin, même si c'est à l'extérieur, avec un autre centre, le SAMU ou...
Ouais, bah, y a quelqu'un qui fait une liaison entre vous et un autre centre, quoi.
Oui, mais par exemple, si on se dit que tel patient va aller dans un autre centre du SAMU, en fait, les autres centres ont des critères aussi. Donc, soit il va dans un centre pour patients vulnérables et pareil, il y reste un certain temps. Soit s'il est considéré comme pas assez vulnérable, parce que vulnérable en soi, ça veut rien dire, ils le sont tous, mais s'il n'est pas assez vulnérable, au bout d'un moment, il va ce qu'on appelle passer par le téléphone. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va devoir appeler tous les soirs le 0800 et espérer qu'il y ait une place. Et s'il n'en a pas, bah, il n'en a pas. Enfin, il va retourner un peu, entre guillemets, à la case départ, quoi. Mmh. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout. Nous, on aimerait bien pouvoir loger tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas possible.
Mmh. C'est un peu inévitable, hein, dans les systèmes qu'il y a ici sur Bruxelles de santé, comme ça.
Oui, ouais, complètement.
Mmh. Bah, moi, je propose qu'on fasse un deuxième break. Ça, j'ai soif.
Une deuxième pause musicale.
Une pause musicale, oui. Ouais. Donc voilà, on lance le truc et puis on verra.
I'll get out of all your boxes. I'll get out. You can't hold me in these chains. I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Thinking resolution is no type of solution, preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more, I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more, I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more, 'cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. You never thought you'd lose me. But how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working, repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live.
Okay, we're getting there. At least I had a chunk. guess how I choose to live. No more compromises. I see past your disguises, blinding through my control, stealing my eternal soul, appealing through material to keep me as your slave. But I'll get out. Oh, I'll get out of all your boxes. I'll get out. Oh, you can't hold me in these chains. I'll get out. Oh, I want out of social bondage. Knowing my condition, oh, is the reason I must change. See, what you see is what you get. Oh, and you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset. I could care less if you're upset. See, you don't change the truth. And your hurt feelings, no excuse to keep me in this box. Psychological locks, repressing true expression, cementing this repression, promoting mass deception so that no one can be healed. I don't respect your system. I won't protect your system. When you talk, I don't listen. Oh, let my father's will be done. And just get out. Oh, just get out of all this bondage. Just get out. Oh, you can't hold me in these chains. Just get out. Oh, these traditions killing freedom. Knowing my condition is the reason I must change. I just accepted what you said. Keeping me among the dead. The only way to know is to walk, then learn, then grow. But faith is not your speed, or you'd have everyone believe that you're the sole authority. Just follow the majority, afraid to face reality. The system is a joke, or you'd be smart to save your soul. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead. Oh, are you sure where's the passion in this living? Are you sure it's God you're serving? Obligated to a system, getting less than you're deserving. Who made up these schools, I say? Who made up these rules, I say? Animal conditioning, or just to keep us as a slave, or just get out of this social purgatory. Just get out. All these traditions are a lie. Just get out. Superstition killing freedom. Knowing my condition is the reason I must die. Just get out. Just get out. Just get out. Let's get out. Let's get out. Knowing my condition is the reason I must die. Just get out.
Donc ça c'était
Lauryn Hill.
Lauryn Hill. Mm. I Get Out.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Pas très connue parce qu'elle était pas dans un album, mais
Lauryn Hill qui faisait partie des Fugees.
C'est ça, exactement.
Ouh là là là.
Voilà, on va revenir. Donc on est pour un dernier moment entre nous.
Le dernier quart d'heure.
Mais
académique.
Voilà. Je me disais, tiens, c'est un multiple pot de questions culturelles. Les langues, comment ça se passe pour vous faites appel à cette. Vous avez tout au régime qui arrive, là, non?
Oui, ah bah ça c'est sûr, ouais. Il y a de tout. La barrière de la langue, c'est un problème qu'on rencontre quand même assez souvent. C'est un problème en soi qui peut parfois être résolu parce que on a des collègues. Par exemple, on a pas mal d'arabophones, mais on a des collègues qui parlent arabe. Coucou Naïma, coucou Mohamed. Et Hamid, évidemment. Et du coup, voilà, ils arrivent à se faire comprendre quand ces collègues-là sont là. On est pas mal aussi à parler anglais quand même. Enfin, pas mal, je sais pas, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui parlent anglais. Donc, ça, l'anglais, ça peut vachement aider parce qu'il y en a quand même pas mal qui le parlent. Moi, je parle aussi espagnol. Ouais. Et du coup.
Je suis espagnol en fait.
Ping. Ah, ok. Ouais. Et du coup, l'espagnol, c'est pareil. Enfin, il y a pas mal de patients qui sont passés par l'Espagne avant d'arriver en Belgique. Et du coup, qui parlent espagnol, même s'ils ne sont pas d'origine espagnole. Et donc, ça aide un peu. Après, pour le reste, il y a Google Trad qui a fait une application qui est vachement bien, qui nous sert beaucoup pour essayer de se faire comprendre avec ceux avec qui on a ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'arabe.
Oui, puisqu'il y a une grosse communauté polonaise quand même, roumaine aussi, et ça, c'est vrai que c'est parfois très compliqué. Et on parlait de conflits tantôt, et les problèmes de communication sont vraiment à l'origine de, je dirais, la majorité des conflits qu'on peut avoir à MediHealth, que ce soit parce que les patients n'arrivent pas à faire comprendre par nous, les professionnels, ou entre eux aussi, beaucoup de difficultés. Par exemple, déjà vivre en communauté, c'est pas facile en soi, pour personne. Mais alors vivre en communauté avec des personnes avec qui on n'arrive pas à communiquer, ça rend la gestion de conflits très 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 compliquée.
Effectivement, oui.
Donc ça, j'ai un chien.
Et je suppose que... vu que vous travaillez avec la population de la rue, est-ce que vous faites un peu de réduction de risque au niveau des patients?
Justement, comment ça se passe?
Ou est-ce qu'ils sont plutôt dirigés vers un autre centre plus spécialisé dans ça?
Comme on disait tantôt, nous on a un accueil inconditionnel et donc les consommateurs, ils peuvent bien sûr être accueillis chez nous. Il y a une interdiction de consommation à l'intérieur du centre, mais des personnes qui sont sous influence peuvent toujours revenir chez nous, à condition évidemment que le comportement reste respectueux. Mais donc oui, pour répondre à ta question, on essaye de faire de la réduction des risques dans le sens où on a une vraie volonté d'ouvrir le dialogue. Par rapport à ces questions-là, parce que ça fait partie aussi de notre mission de soins, de pouvoir accompagner les personnes si elles en ont envie. Évidemment, on n'est pas là pour faire du forcing ou pour dire c'est bien ou mal de consommer, mais si la personne a une volonté de travailler sur sa consommation, on veut pouvoir ouvrir le dialogue sur ces questions. Et c'est vrai que c'est toujours très difficile dans une situation qui est très paradoxale où on a envie de leur dire ben venez, vous pouvez tout nous dire, et d'un autre côté, si on les prend à consommer à l'intérieur du centre, on est obligé d'appliquer une sanction, et donc ça nous met parfois dans une position que je trouve très très compliquée pour
Bon.
Puis c'est quelque chose qui garde quand même, même si j'ai l'impression que c'est en train de changer. Après, peut-être que je dis ça parce que je suis dans le milieu, mais l'image péjorative des consommateurs est quand même en train de changer, mais ça reste quelque chose, en tout cas pour eux-mêmes, qui est assez compliqué à confier, à livrer, etc. Et du coup, même quand on fait, par exemple, des groupes de parole avec Isaline et qu'on met ça sur la table comme un thème vraiment du jour par rapport à la consommation, etc., il y en a qui en parlent, mais on sent que c'est compliqué, et il y en a d'autres qui en parlent pas parce que, en soi, ils ont peur d'être jugés par les autres patients qui sont pas consommateurs, et du coup, c'est compliqué pour eux. Après, les usagers, c'est quand même les patients qui ont généralement le suivi le plus, c'est ceux qui ont le plus de réseau, en fait. Donc, généralement, quand ils arrivent chez nous, après, c'est pas tous, hein, mais généralement, quand ils arrivent chez nous, ils sont déjà suivis, justement, soit par Transit, soit par Dune, soit par le projet Lama, soit... En fait, c'est vraiment les patients qui ont le plus de réseau autour d'eux, généralement, ceux qui sont usagers. Donc voilà, je suppose qu'ils ont les oreilles attentives qui souhaitent autour d'eux, dans le réseau qui les entoure, quoi.
Ouais. Bon, là, quand les patients rentrent, je pense qu'il signe une sorte de contrat ou un désengagement disant que voilà, je m'engage à pas faire ci, pas faire ça, pas boire, pas consommer.
Il y a une convention alors qui est régulièrement rediscutée et qui a déjà changé d'ailleurs depuis.
Il y a rediscuté entre vous ou bien?
Oui, entre
moi, les patients.
Non, entre nous. Plutôt. On avait déjà fait ça avec Isaline sur un groupe de parole. On avait déjà discuté de la convention pendant un groupe de parole. Donc la convention, c'est juste des règles qui sont écrites sur une feuille et qui doivent être signées par le patient quand il arrive dans le centre. Donc voilà, généralement, après on l'a en plusieurs langues. Si les langues qu'on a, ça va pas, on essaie de lui expliquer à l'oral ou de résumer le truc, et c'est des règles qui expliquent le fonctionnement du centre, qui expliquent ce qu'on attend de la personne et qui expliquent ce que la personne ne peut pas faire et la liste des choses que si elle les, en gros, si elle les fait, elle, elle sera sanctionnée, entre guillemets, donc soit mise dehors, soit avertie, quoi.
Je pense que ça reprend également ce que le centre offre comme service. Un petit peu dans les deux sens, quoi. Ce que nous, on s'engage, on s'engage envers la personne. Et à quoi elle s'engage envers nous. Par exemple, je pense qu'il y a un engagement de respecter ses soins, de venir à l'infirmerie.
C'est ce qu'on appelle la compliance, quoi.
De rester dans la confidentialité.
Oui, ça, bien sûr.
Ah, voilà, parce que bon, je suppose que vos patients restent anonymes.
Ouais.
Ah, voilà.
Ouais. Bah, oui, ils l'ont dit là tantôt. Ouais.
Ah, oui, il y a le secret médical qui est appliqué, évidemment. Ouais. Bien sûr.
Vous êtes combien en tout, là, dans l'équipe entière, fait combien de personnes?
Alors, j'ai compté tout à l'heure sur la liste, justement. Il y a une trentaine de personnes, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue organisation, en fait, on travaille ce qu'on appelle en 7-7. Donc, enfin, pas tout le monde, mais donc certaines personnes, dont les infirmiers, travaillent en 7-7. Donc, 7 jours, et puis 7 jours, on ne travaille pas, et 7 jours, on travaille, et ainsi de suite. Ensuite, maintenant, on a des...
Donc, c'est comme les gardes d'enfants, enfin...
Oui,
oui, voilà.
Si on veut, c'est ça. Et ensuite, il y a des collègues, notamment à la cuisine et à la porte, qui travaillent en 4-4. Donc, 4 jours travail, 4 jours travail pas, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, y a les assistants sociaux et les coordis qui travaillent en 5-7. Donc, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Quoi, comme,
puis surtout, tu m'as dit que vous travaillez 24h sur 24. Parce que moi, je pensais plutôt à un roulement usine ou un truc comme ça. Quoi.
Oui, oui. Alors après, par contre, au niveau horaire journalier, tout le monde garde les mêmes horaires tout le temps. Donc moi, par exemple, je travaille le soir. Et donc, mes horaires, c'est 11h, 21h30, tout le temps. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Et mes collègues qui travaillent le matin, ils travaillent de 7h à 17h30. Ceux qui travaillent la nuit, ils travaillent de 21h à 7h. Et voilà, et ça roule comme ça pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un, en fait.
Mmh. Ok. Je pense qu'on arrive dans les... On n'y est pas encore, mais on y est presque.
Le coup de gueule, là, pas...
Moi, j'allais demander... c'est obligé, mais vous aimez ce que vous faites?
Ah, moi, je suis passionnée par mon travail. Ouais. J'aime énormément ce que je fais. J'ai énormément ce public. La Médialte, on a créé, je pense, une équipe hyper chouette, une ambiance, une... au niveau des valeurs, on est vraiment accordé sur, les bergers est au centre, et donc je suis très heureuse dans cet environnement de travail.
Oui, moi c'est un peu pareil, enfin sans se répéter, j'aime beaucoup aussi ce que je fais et je trouve que c'est un travail qui est très très enrichissant par plein d'aspects, quoi. Les gens Enfin, le public, comme dit Isaline, qu'on rencontre nous apprend beaucoup, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, etc. Donc, je pense que c'est un métier qui fait grandir. Enfin, moi, c'est mon premier boulot. J'ai commencé donc il y a 3 ans, comme j'ai dit. Donc, quand j'ai commencé, j'étais quand même assez jeune, vu que j'avais 22 ou 23, je sais plus. Et j'ai l'impression que ça m'a fait vieillir, mais pas dans le sens péjoratif, que ça m'a fait gagner en maturité énormément, parce que j'ai compris certaines choses que j'aurais pas pu comprendre aussi vite si j'avais pas fait ce travail. Donc je suis reconnaissante vraiment d'occuper un poste comme celui-là.
Et par rapport au public, parce que bon, c'est un public... la rue, c'est... Enfin, moi, je la connais. C'est lourd, quoi, je veux dire.
C'est violent, oui, même.
Oui, voilà. Oui. Violent. Je veux dire, ça te rend pas les idées un peu noires, genre, putain, quel monde pourri, quoi.
Bah, ça dépend des moments. Après, je laisserai Isaline aussi dire son point de vue, mais moi, ça dépend des moments... Au contraire, je pense que ça fait relativiser aussi, parce que justement, nous, on se sent aussi chanceuse dans le sens de ne pas avoir connu cette situation-là. Et en même temps, parfois, il y a des choses, comme je disais, hyper positives avec des gens qui vivent des trucs très très durs, mais qui arrivent à garder le moral, qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à garder une force, etc. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Enfin, c'est incroyable de voir des choses comme ça. Donc ça fait que, en soi, moi, je garde foi en l'humanité. Et après, évidemment, que en fonction des événements, de ce qui nous arrive, etc., il y a des fois où c'est compliqué et où on se dit effectivement qu'est-ce que c'est que ce monde de merde dans lequel on vit. Mais bon, après, on arrive quand même Puis il y a le côté aussi de se sentir utile, il y a le côté de se dire que tous les jours on fait quelque chose qui sert à des gens et qu'on aide des gens, et ça je pense que ça aide à tenir en fait.
Et c'est valorisant.
C'est ça, exactement.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement valorisant, et ça je trouve ça très très vaniteux de ma part, mais je l'assume, d'extrêmement valorisant à réussir à recréer du lien avec quelqu'un qui n'a plus confiance en rien ni personne, qui est complètement coupé de tout lien, et voir qu'à travers ce lien qu'on va créer, elle va trouver parfois les ressources de se reconstruire vraiment petit à petit. Et moi je dis toujours, moi de la violence, je la vis pas à travers les hébergés, je vis pas de violence à cause d'eux. Mais de la violence, c'est plutôt, elle est plutôt institutionnelle, du fait que l'État ne donne pas les clés pour vraiment accompagner les personnes, pour leur offrir ce dont elles auraient besoin pour se soigner. Elle est là la vraie violence, et il est là le sentiment d'injustice et la colère qu'on peut ressentir. Elle est jamais envers, en tout cas pour ma part, jamais envers les hébergés, mais envers l'État et les institutions.
En fait, c'est une sorte de coup de gueule, hein, qu'elle dit. Enfin,
oui, ouais. C'est vrai, ouais. C'est ce que je suis en train de me dire. Ouais.
Parce que justement, s'il y avait des choses que...
Moi, j'avais juste demandé une dernière chose, mais est-ce qu'il y a des activités là où vous êtes... Parce que je vois les gens qui viennent, ils restent sur place pendant un long moment pour reprendre de l'énergie ou pour qu'on leur mette des bandages et des pansements. Est-ce qu'il y a quand même un petit quelque chose pour leur faire sourire pendant la journée?
Oui, qu'est-ce qu'ils foutent pendant la journée?
Ils se font chier.
Non, il y a la télé en soi, ouais. Et après, nous, on avait mis en place ce groupe de parole, mais qu'on a du mal à tenir parce que parfois, on est trop occupé pour pouvoir le pratiquer. Une fois, avec Laurent, on avait fait aussi une activité collage. Il y a des activités comme ça, mais c'est ponctuel. C'est pas des choses qui sont vraiment organisées parce que, en fait, personne n'a vraiment le temps à consacrer à ça.
Ouais.
Après, il y a un centre de jour, RestoJet, qui est vraiment tout près de notre centre et qui propose toutes les après-midi des activités artistiques, jeux de société, parfois des sorties. Uh-huh. Et donc pour des personnes qui sont en demande, c'est là qu'on va essayer de les orienter. C'est souvent difficile parce que même se mobiliser jusque-là, c'est pour plein de raisons, que ce soit au niveau santé physique ou santé mentale, c'est pas toujours facile. Et donc on aimerait pouvoir proposer une offre au sein du centre. Mais comme dit ma collègue, on manque d'effectifs pour ça.
Ok. Bon, ben, on arrive à la fin de l'émission.
Peut-être, je sais pas si vous avez des anecdotes ou si vous voulez rajouter quelque chose, je sais pas.
T'avais
un coup de gueule, un message à passer, une dédicace?
Non, à part le fait qu'on veut un nouveau bâtiment plus salubre et avec un ascenseur.
Bah, et on resalue aussi tous nos collègues de la MediHalt et même nos collègues du SAMU social en général, même si on les connaît pas tous. Et on leur dit à tous bravo et merci pour tout ce qu'ils font au quotidien pour les patients.
Et on salue aussi ton pote là qui sera arrivé dans la dune.
Romain. Oui.
Il nous a branché un peu parce qu'on avait fait un premier truc avant.
Donc. Oui, on salue Romain aussi s'il nous écoute.
Okay.
Ben écoutez, moi j'aurais bien aimé me faire saluer par vous, mais bon, je préfère pas retourner dans la rue.
Oui, on te le souhaite. C'est ce qu'on dit aux patients quand ils partent, on espère qu'on ne vous verra pas.
Je pense qu'après le séjour chez vous et tout, des fois vous rencontrez des personnes en rue.
Oui, bien sûr.
De la fermière.
Oui, ils sont contents de nous voir généralement. Ouais.
Et on est très contents d'avoir des nouvelles.
Mm-hmm. Et généralement, ils sont très reconnaissants et très remerciants, même 2 ans plus tard, quand ils nous croisent.
Ben, je pense qu'on va faire vous donner faire un grand merci.
Ouais.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir invités. Oui.
Voilà. Donc bien halte. On fait pas trop votre pub parce que bon, ça passe par intermédiaire. Donc voilà. Par les hôpitaux.
Voilà. C'était le média halte à Jet.
Oui.
Et merci à Roxane et Isaline.
Merci à vous.
On vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et on se verra au mois d'octobre.
Ah, et bonjour aux patients, si
deuxième
vous
mardi du mois.
Oui, aussi.
19h. Clip radio. Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what you want to do. Sur Radio Panique. We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. Clip radio. Thank you.